voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Clément rencontre Anne Kefelec. Ce soir, fleuriste ou musicienne ?
Bonsoir Anne Kefelec.
Bonsoir.
Alors écoutez, nous sommes ici chez vous, à Maison Lafitte, dans votre maison, et plus précisément dans la pièce où travaille votre fils qui est pianiste comme vous.
Vous travaillez. Il s'est envolé depuis, bien sûr.
Il s'est envolé depuis, mais en tout cas c'est un piano, un grand piano, et chacun sait que vous êtes une grande pianiste de renommée internationale. Et que votre participation à tous les festivals en France, en Europe, dans le monde, fait de vous une de nos plus grandes interprètes. Donc on est très heureux de partager ces moments d'intimité, de dialogue avec vous. Et nous allons converser pendant 5 émissions. La conversation est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes qui sont supposées s'écouter et s'exprimer tour à tour, échangeant donc mots et silence. Si elles parlent en même temps, il ne résulte que confusion et cacophonie. La musique est bien autre chose qu'un simple langage, elle dit l'indicible, elle donne maille à partir avec le silence. C'est de vous ça, hein ? Vous vous souvenez quand vous avez écrit ça ?
Je ne me rappelle pas quand je l'ai écrit, mais j'étais probablement très inspirée de Yankelevitch et également un ami physicien qui s'appelle Yves Kéré, qui est très mélomane et qui avait attiré mon attention sur la différence entre ce qui se passe au théâtre et ce qui se passe en musique à l'opéra. Il est possible en musique, et ça se passe évidemment aussi lors d'une symphonie ou d'un concerto, ou en musique de chambre, qu'on parle tous ensemble, on chante tous ensemble, on fait de la musique, on s'exprime tous ensemble, et même qu'on dise des choses différentes, et notamment il y a des opéras de Mozart, où, par exemple les Noces de Figaro, où trois protagonistes parlent de leur façon de vivre l'amour. Il y en a un qui est trahi, il y en a un qui espère et l'autre qui rêve, je dis un peu en vrac, mais ils sont capables de dire des choses totalement différentes en même temps, et c'est beau, et ça n'est pas de la cacophonie, alors qu'évidemment au théâtre, c'est chacun doit parler à son tour, et c'est une énorme différence. Ça, c'est la puissance de la musique, cette polyphonie.
Oui, alors donc on va parler du silence autant que de la musique d'ailleurs, parce que le silence fait partie de la musique. Vous en parlez beaucoup du silence.
Oui.
Mais ce que je voudrais aujourd'hui dans cette première émission, je voudrais qu'on s'interroge et que vous nous répondiez à cette question. Cette musique qui a occupé et qui occupe toute votre vie. Comment ça arrive ? Comment vous êtes
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Comment vient-on à la musique ?
Comment vient-on à la musique ? Évidemment, quand enfant, j'ai eu la chance de naître dans une famille où la musique et les valeurs de l'esprit, d'une façon générale, étaient primordiales. Et donc, je ne dirais pas que la musique est toute ma vie, je dirais qu'elle m'a constituée peu à peu complètement en effet, mais que par ailleurs, évidemment, la vie est riche de toutes sortes d'autres dimensions. Je me sens par exemple, par rapport à la maternité, fortement, complètement aussi
engagée,
constituée.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui,
la musique est aussi évidemment au cœur de cela.
Le piano, vous avez bien, il y a bien un jour où vos mains sont venus sur le piano.
Oui, parce que justement, dans ma famille, nous vivions dans une sorte de grotte préhistorique où il n'y avait que des livres et le piano, en quelque sorte, puisque nous n'avions ni télévision, ni même radio à l'époque, ni même ce qu'on appelait alors un électrophone, ni frigidaire, ni appareil photo. Enfin, aucun signe de moindre, on ose à peine dire modernisme, parce que c'était l'équipement de base, même à l'époque de la plupart des familles. Nous n'avions pas cela, mais il y avait le piano, et il y avait le fait que ma mère était une musicienne très accomplie, qu'elle avait fait beaucoup, beaucoup de musique, et qu'elle m'a mise, comme ses autres enfants d'ailleurs, dans les mains de très bons professeurs. Et puis mes trois frères ont finalement très vite renoncé, et moi j'ai continué, j'ai poursuivi. Donc ça s'est fait en fait tout naturellement.
Et Anne Kefelec, à quel âge vous avez commencé à...
Le piano était là dans la famille de toute façon. Je suppose que ma mère, quand j'étais bébé, elle jouait pour moi. Ça s'est perdu dans l'inconscient très très lointain de la mémoire avant 3-4 ans, disons. Après, à peu près vers 5 ans, enfin, bon, mais je me disais, je serai pianiste plus tard, mais je serai pianiste dans la semaine et fleuriste le dimanche.
Donc, d'accord. Vous voyez, les fleurs du dimanche. C'était un rêve de petite fille.
J'aimais les fleurs et j'aimais jouer à la marchande. Et puis voilà, j'avais pas la moindre notion de ce que représentait la dureté d'un tel métier. Et je n'avais pas non plus la notion de ce que ça pouvait être d'être une pianiste naturellement. Et maintenant, même encore maintenant, je dirais que j'aurais de la peine à définir dans le fond ce que c'est être une pianiste, parce que je pense qu'il y a toutes sortes de manières et que ce sont des cheminements singuliers à travers ce métier. Et que
vous allez nous aider à répondre à cette question.
On
a besoin de savoir comment.
C'est un instrument, justement. Quand on dit instrument de musique, c'est un instrument pour toucher à tant de domaines, atteindre tant de dimensions. Et je me rends compte d'autant plus maintenant par rapport à tout le chemin parcouru, à quel point c'était un cadeau d'avoir cette espèce d'outil d'exploration de l'humain à travers la musique, en effet, et le piano en particulier, qui est petit orchestre en miniature.
Mais bon, la musique, oui, mais pourquoi le piano? Vous auriez pu jouer du violon, faire de violoncelle.
Non, mais parce que justement, ma mère avait fait du piano. Mon père aussi, d'ailleurs, à Brest, dans sa famille, il y avait un piano aussi. C'était beaucoup plus classique à l'époque, d'ailleurs, de commencer le piano. Éventuellement, après, jeunes musiciens peuvent en effet évoluer vers d'autres instruments. Mais ça, c'est simplement parce que dans la famille, c'était présent. oui. Voilà. Et je m'en félicite parce que, bien sûr, le son des cordes, je pense au violoncelle, par exemple, qui me touche profondément. Et puis, la clarinette, les instruments avant aussi, évidemment, sont souvent très proches, plus proches que le piano même de la voix humaine. Mais le piano peut tout se permettre dans la dimension harmonique et mélodique, dans sa richesse. Le spectre que le piano a musicalement est extrêmement vaste, et c'est bien pour ça que le répertoire du piano est inépuisable.
Oui,
tous les grands
sûr.
Compositeurs ont... Il y a chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre dans le répertoire du piano, évidemment.
Donc vous avez commencé et joué du piano tout le temps, très jeune.
Oui.
Et dès que vous sortiez de l'école, dès que vous y passiez au week-end,
sauf quand
vous jouiez à la marchande, mais de fleurs.
Les week-ends et les vacances sont des notions que qui ne veulent pas dire grand-chose pour moi. Jusqu'à 8 ans, j'allais à l'école communale du 14e arrondissement. J'étais très contente. Ça se passait très bien. C'était très joyeux, des souvenirs très, très, très gais de cette enfance-là. Je pense qu'il y a eu un jour précis où mon professeur de piano, qui était une femme absolument remarquable, une pédagogue qui était associée à Corto, à l'école normale, et qui a dû dire à ma mère que là, la petite est douée, vous devez prendre une... À ce moment-là, non, je n'étais pas au conservatoire, c'était en cours privé. Et donc, vous devez prendre une décision, parce qu'elle pourrait peut-être en faire son métier. Et je pense que cette décision m'a... J'ai souvent imaginé ça, ma mère a dû
sans doute... À quel âge vous aviez, Anne Kefelec,
insomniaque pendant plusieurs nuits. J'avais 8 ans.
8 ans, à 8 ans.
Et à 8 ans, donc finalement... Elle a dû se dire, faisons confiance au professeur si elle dit ça. Et du coup, ma vie de petite fille a complètement changé parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain dans un cours privé. À l'époque, il n'y avait pas de bac musique, il n'y avait pas d'horaire aménagé.
Pas au conservatoire?
Non, j'étais pas au conservatoire dans les petites classes. Et ça, d'ailleurs, je m'en félicite. Non, je suis entrée directement supérieure à 15 ans. Mais en attendant, à 8 ans, donc je me suis retrouvée dans ce cours privé où on allait à 2 heures par semaine en classe. Donc c'était vraiment très peu du jour au lendemain. Je n'avais plus de contact avec les gamins de mon âge, en fait. Et donc j'étais à la maison, je préparais le fameux cours de 2 heures pendant la semaine avec ma mère. Curieusement, le cours en question s'appelait le cours Atmer. que peut-être certains auditeurs connaîtront, et qui en principe permettait justement aux enfants d'avoir une activité parallèle. Mais je suis restée dans ce cours après, mais heureusement, au fur et à mesure qu'on progressait dans les classes et en âge, le nombre de cours s'intensifiait et donc on avait quand même une vie, des relations amicales avec les camarades de classe, donc ça compensait. Mais de toute façon, ma mère faisait très attention à ce que je ne sois pas justement isolée complètement, et donc elle veillait à ce que de temps en temps je parte faire du camping, par exemple, avec les copines de classe, et ou du théâtre, ou de bon. Je garde pas du tout le souvenir d'une enfance austère. Je devais être une enfance très docile, mais j'aimais apprendre.
C'était au contraire un
et puis
naturel.
Mes professeurs de piano étaient vraiment des femmes souriantes, enthousiastes, qui aimaient profondément la musique. Et pour la transmission, évidemment, c'est absolument fondamental.
C'est ce professeur dont vous parliez qui vous a le plus marqué, cette femme, la première que vous avez eue. C'est elle qui vous a entraîné.
Oui, qui est une femme très intelligente et très cultivée, et qui a dit à mes parents tout de suite, alors que c'était pas du tout automatique à l'époque, il faut que la petite ait son bac. Donc, pas question d'interrompre les études. On peut très bien faire les deux. Mmh. Alors que la plupart des collègues de ma génération, ils faisaient les cours par correspondance et ils lâchaient avant le bac. Mmh. Et ça, c'est un des pires regrets que j'ai eu quand même, parce que j'ai essayé après le bac, j'ai fait un an d'Hippocagne. J'ai eu l'impression par rapport aux études générales à ce moment-là, d'être notamment par rapport aux mathématiques que j'aimais beaucoup, qu'on me lâchait au milieu du feuilleton. Je n'aurais pas la suite de l'histoire, donc j'ai toujours eu une boulimie d'apprentissage et j'adore à écouter des cours. J'adore la posture de l'élève qui apprend et à qui on transmet quelque chose. Ça, je veux dire, j'adore ça. Ça m'est arrivé de temps en temps d'aller suivre des cours au Collège de France, par exemple, et me trouver derrière un bureau pour écouter quelqu'un qui parle et qui me transmet son savoir. Ça me grise toujours, oui.
Mais alors après cette... cette initiation, enfin ces débuts, cette vocation finalement qui vous a conduit à privilégier le piano par rapport à tout le reste, vous avez eu un certain nombre de grands maîtres, enfin aussi des personnages qui ont beaucoup compté. Oui. Alors moi j'en ai, en lisant sur vous pour préparer cette émission, Anne Kefelek, j'ai trouvé Paul Badoura Skoda, Jörg Dermus et Alfred Brendel.
Oui, alors évidemment,
c'est trois qui ont
Brendel,
surtout Brendel plus que. Et comment? Là, c'était plus tard et déjà.
Oui, bien sûr. Là, on a sauté quelques étapes. En fait, quand vous parlez justement de vocation par rapport à la musique, curieusement, je crois que la vocation, au fond, elle est venue plus tard parce que j'aimais.
C'était pas encore ça
allait. Ça semblait tout naturel parce que j'étais très très bien guidée et que j'aimais énormément la musique. Mais à ce moment-là, j'aimais aussi énormément lire. Et je me souviens d'un petit moment de crise quand même vers 15 ans où j'ai dit à ma mère, là je me rendais pas compte de ce que c'était de donner un concert. J'ai dit, mais finalement, jouer comme ça du piano devant un public, c'est simplement pour se distraire les gens. Est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose d'un petit peu plus utile aux autres? Enfin, j'ai eu une espèce de crise d'interrogation. Sur le sens même de ce que je faisais, est-ce que ça n'était, à ce moment-là, je voyais plus ça dans le sens d'un divertissement. Est-ce que je ne représentais pas un divertissement? Alors qu'évidemment, maintenant, je ne vois plus du tout ça comme ça. Oui. Mais enfin, j'ai digressé.
Non, oui, pas vraiment.
Parce qu'on a quitté Brendel, entre autres.
Oui, mais on va y revenir. La première fois que vous avez joué en public, là, d'un seul coup, c'était dans une classe?
Au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. J'avais 12 ans, j'avais des nattes. Et je me rappelle la robe que je portais, même les chaussures, blanches, avec un grand col et un petit nœud, naturellement. Et c'était extraordinairement sympathique. J'avais gagné un concours. Le prix était, entre autres, de donner un concert, enfin, de participer à une espèce de manifestation culturelle.
Dans l'amphithéâtre de la Sorbonne.
Grand amphithéâtre de la Sorbonne.
Et vous aviez 12 ans.
J'avais 12 ans.
Vous
n'étiez
pas intimidée?
Non, justement, ce jour-là, je me souviens, j'y suis allée totalement. Alors là, non, je trouvais ça très, très, très grisant et très, très amusant. Et le public, c'était extraordinairement sympathique parce que c'était les médailles de la ville de Paris. Donc, public méritant avec des pompiers, des femmes de ménage, des infirmières, des mères de famille ultra nombreuses qui étaient aussi, qui recevaient des médailles, qui avaient des entre 10 et 15 enfants. Bon. Donc, un public, ingénu qui ne l'est jamais au concert et très enthousiaste et tout le monde sur le 31. Enfin, c'était très particulier, ah oui. Mais c'est un joli souvenir, oui.
Et vous vous souvenez de ce que vous avez joué ce
oui,
jour-là?
Oui, j'avais joué une pièce de Chopin, ce qui s'appelle Allegro de concert, que je n'ai plus jamais rejoué après.
Ah bon? Pourquoi?
C'est pas le meilleur Chopin.
Ça, ah bon,
c'était
d'accord.
Anecdotique.
Et vous avez joué uniquement un morceau?
Oui, parce qu'il y avait plusieurs intervenants, d'autres petits-enfants.
On avait droit à un morceau et puis
mais donc,
puis voilà.
Ce jour-là, je trouvais que c'était toujours compatible avec le fait d'être fleuriste le dimanche.
mais quand vous vous êtes retrouvé dans cette salle de concert, donc le grand amphithéâtre de la Sorbonne, un café là, que vous étiez, vous êtes dit, bah ça là, c'est grisant, je veux faire ça, je veux me faire applaudir, je veux avoir du public.
Oui, je trouvais que c'était la fête. Et puis il y avait un petit détail. Alors j'ai presque honte de dire ça parce que maintenant c'est pas vraiment devenu prioritaire chez moi, mais très frivole. Je pourrais avoir des belles robes. Alors je me souviens, j'avais vu autant d'Emporte-le-Vent avec Vivienne Leigh. Scarlett O'Hara, je trouvais qu'elle avait des robes extraordinaires et je me faisais de temps en temps ce petit film. Je voyais arriver avec une immense robe à panier sur la scène. Évidemment, c'est maintenant surtout, je veux ne pas avoir à penser à ce que je porte sur scène. Plus on peut évacuer ce genre de soucis, mieux c'est.
D'accord. Là, vous êtes plus concentré sur le clavier et sur votre répertoire que sur la toilette. Enfin, quand même. Faites un effort.
C'est pas une question d'effort. Et c'est vrai que parfois j'envie les hommes. Toujours... Là. Ils ont leur costume ou smoking ou leur tenue de scène. Voilà, qui est jolie, qui est élégante, mais voilà, c'est absolument annexe, ça n'est absolument pas primordial et le public ne se dit pas tiens, comment est taillé son costume. Alors que, on voit, maintenant, je trouve que ça, il y a même des dérives qui perturbent on voit bien les jeunes musiciens hommes, les jeunes femmes arrivent toutes en bustier, et elles sont toutes des top modèles. Alors, on voit des top modèles qui arrivent vers le piano avec des chaussures à talons aiguilles absolument vertigineuses. Je ne sais pas comment elles font pour mettre la pédale. Je ne peux pas être perchée sur ces toutes petites tiges métalliques. Mais bref, elles sont maintenant, c'est totalement acquis. L'uniforme de scène pour les femmes, c'est ça. Mais moi, je préférerais être comme les hommes, là, vous voyez, pour le coup. Mais bon, oublions ce détail qui est important, mais il ne faut pas qu'il y ait prise de tête avec
non,
ça.
Non, mais c'est intéressant aussi, parce que c'est la façon de se présenter, de présenter les musiques au public, et donc d'être aussi une sorte de mise en scène.
Ah, on est vu, c'est vrai. Oui. On est vu, on est regardé. Oui, oui, c'est vrai.
Mais alors... Anne Kefelec, entre ce moment à 12 ans quand vous êtes à la Sorbonne et puis ensuite celui où vous sentez que vous allez devenir une professionnelle, enfin...
Oh, ça s'est fait...
Comment passe-t-on ?
Progressivement. Après, je suis entrée en effet au conservatoire à 15 ans et puis j'ai eu, à l'époque, c'était faisable, ça s'appelait le prix, on passait les prix à la fin de l'année ou pas. En l'occurrence, j'ai eu un concours qui m'a permis en effet de passer les prix la même année, donc au fond, ça voulait dire que j'entrais en novembre et je sortais en juin, donc en 6 mois, le cursus du conservatoire s'était déroulé, alors qu'à maintenant, ce serait 5 ans, vous voyez. Donc, à l'époque, c'était même probablement trop
court.
Trop tôt, bien sûr. Et par contre, heureusement, très peu de temps après, l'année suivante, il y a eu l'instauration du troisième cycle, juste avant 68, en 67. Et là, ça donné la possibilité, si on était admis, on a entré dans un cycle de 3 ans, on avait des masterclass avec des maîtres étrangers, je me souviens de Kempf, je me souviens de Georgie Sebok, donc les virtuoses Matthews qui passait à Paris donner des cours au conservatoire. On travaillait avec l'orchestre et ça c'était formidable. Donc, on jouait les concertos.
Et donc Anne Gefelec, vous les avez vus comme professeur, vous les avez entendus. En tout cas là vous avez été en contact
j'ai reçu
avec les plus grands.
Voilà. Mais surtout c'est vrai que nous avons évoqué tout à l'heure Alfred Brendel et là ça mérite en effet que j'en parle davantage parce que ça a été tout à fait fondateur pour moi. Et étonnamment quand on voit d'où partent les fils dans les vies qui vous amènent à telle ou telle direction. En fait, c'est grâce à mon père que je me suis retrouvée à rencontrer Brendel parce que quand j'avais 12 ans, je suis allée avec ma mère à Vienne parce que mon père avait une passion pour Mozart et trouvait que c'était bien pour sa fille qu'elle aille en Autriche, au berceau de évidemment, on sait bien l'Autriche, l'Allemagne, c'est vraiment là le cœur de la musique, lourd musique, la musique d'origine avec Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Schumann, Brahms, Schubert. C'est vrai que c'est dans cette partie du monde que ça se situe. Je suis encore en train de digresser. Bref, je suis partie donc à Vienne. À l'époque, c'était pour rencontrer Jörg Demus et ça a été un très court voyage. Mais après, ça m'a laissé dans la tête cette idée de Vienne et du berceau de la musique. Et c'est pour ça qu'après, j'ai souhaité retourner à 20 ans et prendre des cours avec Brendel. Je l'ai revu.
Brendel donnait des cours, Anne Gefelec, comme ça, vous arriviez, vous disiez je travaille.
Ah, ben bah non, c'était des masterclass. C'était des masterclass organisées. C'était annoncé dans des journaux musicaux, je ne le connaissais absolument pas avant. Et à l'époque, il n'était pas encore la star qu'il est devenu ensuite. Donc, il était très disponible, beaucoup plus qu'il ne l'est devenu après, pour l'enseignement. Et je me souviens l'avoir croisé avant le cours, dans les couloirs de cette école où se donnaient les masterclass, et avoir été un peu vraiment bêtement perturbée par son aspect, on aurait dit un professeur qui devait être uniquement un peu, je ne veux pas dire rat de bibliothèque, c'est très très réducteur, mais enfin il avait des pantalons trop courts, des chaussettes trop courtes, on voyait ses mollets, et donc entre le pantalon et la chaussette, on sentait qu'il se fichait complètement de son allure, complètement, et qu'il était complètement dans sa musique. Alors évidemment c'était très impressionnant, mais je me souviens que ce jour-là, le jour de son premier cours, il faisait un temps radieux et j'étais allée me promener dans la forêt viennoise en me disant « ce cours-là peut-être sera tellement austère que j'avais préféré l'appel de la nature ce jour-là ». Et puis le deuxième jour, je rencontre les élèves qui avaient assisté au cours d'Alfred Brendel et qui étaient tous la tête renversée en me disant « mais tu peux pas savoir ce que c'est cet homme, et il est absolument extraordinaire ». Et en effet, je me souviens du premier cours de Brendel avec la sonate de Liszt et où vraiment c'était comme si le tonnerre était entré dans la pièce avec la boule de feu, on se cramponnait à nos chaises tellement il y avait quand il donnait des exemples, tellement il y avait de flammes et d'engagement et de passion c'était ça vraiment totalement inoubliable. Et donc après j'ai suivi des cours avec lui et il a été très très gentil.
Qu'est-ce qu'il vous a appris principalement, Anne Gefelec?
Énormément de choses, donc je me rends encore plus compte maintenant à quel point ça m'habite toujours. Le respect du texte, déjà l'étude de la partition, l'architecture, la structure des choses, l'architecture à la fois dans la durée et aussi l'on peut dire horizontalement et verticalement. Donc l'écoute des harmonies aussi, à travers par exemple les sonates de Schubert, il avait une écoute extraordinairement savante où à la fois on faisait attention aux détails, aux plans, à la qualité du son, différencier les sons comme si à travers ses 10 doigts de pianiste on pouvait reconstituer un quatuor à cordes par exemple en recherchant des sons de violoncelle ou les voix aussi de soprano.
Il l'expliquait lui-même
Puis alors il dirigeait. Alors
vous
il
le
se mettait
en l'écoutant.
Beaucoup. Non, il expliquait en anglais, parce que les cours se passaient en anglais, et il dirigeait comme un chef d'orchestre. Donc il y avait à la fois le détail et la vision d'ensemble. C'était très passionnant à ce point de vue-là. Donc ne pas se perdre. Il parlait, alors quand à ce moment-là, il disait ça en allemand, des grosses lignes, la grande ligne. Et ce qui n'empêchait que dans la conduite des phrases, je me rappelle qu'on avait passé une fois presque 2 heures sur la ligne d'entrée du 4e concerto de Beethoven, donc une ligne apparemment lumineuse, de transparence, de limpidité, qui ne devrait poser aucun problème d'interprétation. Et néanmoins, là, on sentait que chez lui, le poids du son, enfin, de chaque doigt, l'indépendance de chaque doigt, il y veillait. Et en effet, on entendait la différence à ce moment-là.
Et c'est avec lui que votre jeu a été modifié, votre compréhension de la musique, votre sens de l'interprétation a été modifié.
Tout sert. Je ne sais pas à quel niveau ça s'est passé, mais surtout l'approche du répertoire aussi, Mozart, Schubert, Beethoven, a été très, très influencée par son enseignement, c'est vrai. Et Liszt aussi, j'ai travaillé des œuvres de Liszt avec lui. Et le développement de l'imaginaire, mais en même temps, ce qu'il y avait de beau dans ce que portait cet homme, et c'était bien que je l'ai rencontré à ce moment-là, pas plus tôt, j'avais 20 ans, entre 20 et 30 ans. Après, je l'ai revu à chaque fois que je pouvais, quand il passait à Paris, où je lui jouais des choses. Il n'était pas directif, autoritaire, il ne disait pas « c'est comme ça qu'il faut faire ». Il expliquait sa propre conception, pourquoi il était arrivé là, et après chacun devait faire son miel, et évidemment c'était l'approche la plus intelligente.
Donc c'est lui qui vraiment qui vous a, après cette femme professeure que vous avez vue oui. enfant, c'est Brendel qui a été votre maître.
Après on fait flèche de tout bois, on écoute de il faut en tant que pianiste, il est archi important de sortir du piano, c'est ce que maintenant oui, je dis oui. à mes élèves, il faut surtout pas jouer que du piano quand on est pianiste. Il faut jouer d'un orchestre, justement, il faut diriger d'ailleurs, il faut même retrouver l'espace comme on l'aurait devant soi si on était chef d'orchestre, et imaginer que certains sons partent de la gauche, d'autres de la droite, et même presque imaginer la tête du clarinettiste ou du flûtiste. Qui, dans une sonate de Mozart, on peut imaginer, tiens, ça, ce serait une flûte, et quelle tête aurait la personne. Enfin, je trouve qu'on peut, il faut développer son imaginaire beaucoup, et ça, au piano, c'est possible. On ne peut pas dire à un violoniste, là, tu devrais avoir un son de piano, on peut dire à un pianiste, là, cherche un son de violon.
Non,
c'est une grosse différence.
Oui, le piano a vraiment complètement rempli la vie, finalement, à ce moment-là. Elle vous apporte toutes les sonorités.
À partir du piano,
à partir du piano,
on peut aller tout très faire. Loin. C'est un vrai bateau, on peut naviguer très loin, oui.
Bon, on s'arrête là pour ce soir, on reprend demain.
Avec plaisir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Anne Kefelec. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son Patrice Klein, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.